Je m'appelle Sophie Anou, je suis responsable du service des collections pour les musées de la ville de Calais et commissaire de la galerie Rodin réouverte.
Donc Rodin, évidemment, à Calais, c'est un personnage emblématique. Il fait partie, on va dire, de l'histoire de la ville.
Oui, tout à fait, puisque en 1884, la municipalité de Calais commande à Rodin un monument pour commémorer le sacrifice d'Eustache de Saint-Pierre et de ses compagnons à l'occasion de la reddition de la ville lors du siège de Calais.
Donc sa restitution sous forme d'œuvre, elle se fait comment et qui sont les bourgeois qui seraient identifiés?
Alors nous avons donc un monument que Rodin propose un monument avec six personnages et non pas le monument à Eustache de Saint-Pierre qui serait celui qui a mené le groupe et qui est le plus identifié. Il propose un groupe de six. Parmi ceux-ci, il identifie bien sûr Eustache, mais par la suite, il donne plutôt des indications en termes de posture ou d'accessoires, puisqu'il va parler par exemple du bourgeois à la clé pour parler de Gendaire, etc. Mais Rodin lui-même n'a pas nommé l'intégralité des bourgeois.
Comment cette œuvre a-t-elle été accueillie à Calais?
Alors cette œuvre a été bien accueillie pour la première maquette que Rodin propose au comité chargé de la réalisation. Par contre, quand il obtient la commande, il va pousser plus loin ses recherches. Il va proposer quelque chose de beaucoup plus personnel et notamment accentuer l'aspect tourmenté de ces personnages. Et finalement, on arrive sur un monument qui n'est plus un monument héroïque, mais plutôt un monument qui représenterait le sacrifice humain. Et cela plaît un peu moins aux commanditaires, mais Rodin poursuivra dans son idée, et finalement, ce sera quand même le monument tel qu'on le connaît, avec des personnages, des individus, avec des émotions humaines, qui sera présenté et qui est aujourd'hui sur la place de l'Hôtel de Ville de Calais.
Il lui est arrivé aussi d'avoir un refus d'une commande?
Alors ça arrive effectivement que Rodin, comme tout artiste du 19e siècle, donc il répondait énormément à des commandes, puisque de toute façon le sculpteur était obligé pour vivre d'obtenir des commandes publiques, et pour faire des pièces de grande dimension, il fallait un certain nombre de facteurs, et notamment un budget conséquent pour acheter les matériaux, du temps, etc. Donc Rodin va répondre très fréquemment à des commandes publiques, et notamment alors par exemple, ce que l'on présente dans nos salles, c'est la sculpture de Lazare Carnot à Nolay. Rodin va concourir pour cette statue, et ce ne sera pas lui qui sera retenu, ni un autre d'ailleurs, mais finalement Jules Rouleau. Et donc c'est intéressant de voir qu'il voilà, ne va pas toujours réussir à obtenir les commandes. Et une autre commande qui a fait grand bruit, c'est la commande de la Société des gens de lettres, qui commande une statue en hommage à Honoré de Balzac. Et là, Rodin va énormément se documenter sur l'écrivain, mais faire beaucoup d'esquisses en terre, etc. Mais va finir par livrer une représentation de l'écrivain très symbolique, finalement, puisque une statue très monolithique, Honoré de Balzac est enveloppé dans sa robe de chambre avec une tête assez massive où on le reconnaît très peu. Et finalement, la Société Jean-Dette va être très déçue par cela. Elle ne va pas reconnaître ce qui était attendu à ce moment-là dans les milieux artistiques et ce qui était considéré comme étant classique. Donc elle va refuser la commande de la statue d'Honoré de Balzac et va préférer un autre sculpteur pour réaliser. Donc ce sera Alexandre Falguière.
Il y avait déjà cette notion d'appel d'offres, d'appel à commande?
Alors, il y avait plusieurs façons d'obtenir les commandes. Dans le cas de Calais, Omer de Wavrin demande à un artiste local conseil sur un artiste capable de traduire le dévouement d'Eustache de Saint-Pierre et de ses compagnons, et va du coup contacter par ce biais Auguste Rodin, qui va être emballé par le sujet, et va répondre à la commande.
Est-ce que Rodin, à l'époque, était déjà très célèbre? Est-ce qu'il avait beaucoup de commandes? Est-ce qu'il avait beaucoup à faire? Est-ce qu'il pouvait aussi choisir les commandes auxquelles il voulait répondre?
Alors, son nom commence à circuler dans les milieux artistiques plutôt dans les années 1880, en fait, suite à l'affaire, finalement, de l'âge des reins, où on a mis en question sa capacité à mouler aussi bien, finalement. On a accusé une de ses premières statues d'avoir été moulée sur nature. Donc ça va faire un grand bruit. Et une fois qu'il aura vraiment prouvé que c'est bien lui, on va comprendre qu'on est face à un artiste de très, très grand talent. et il va recevoir très vite la commande de la Porte de l'Enfer, donc une commande de l'État, qui va lui ouvrir un certain nombre de portes ensuite. Donc en 1884, il est déjà un petit peu connu, mais le monument va quand même être une de ses grandes commandes. Après, il a d'autres commandes en cours en même temps que le monument des bourgeois. C'est aussi pour ça que ça va être aussi long.
Donc pour expliquer cette histoire, cette polémique, hein, c'est que l'œuvre qui était présentée, d'Hérin, enfin autour d'Hérin, c'était une œuvre à dimension humaine, donc on pouvait imaginer être un moulage, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Rodin va proposer un grand nu à taille humaine et tellement bien réalisé finalement qu'on va imaginer, enfin, un journaliste belge à l'époque va plutôt certainement dans le sens de dire que c'est bien réalisé, mais émettre l'idée que ça pourrait avoir été moulé sur nature. Or le moulage sur nature n'a rien d'artistique, donc n'a pas d'intérêt, en tout cas le sculpteur s'est trouvé particulièrement froissé par cette allégation, et va ensuite mettre tout en œuvre pour qu'on ne puisse plus l'accuser de ce genre de choses, et notamment ne moulera plus rien à l'échelle une, en tout cas à l'échelle humaine.
Donc les œuvres qui sont dans ce musée des Beaux-Arts de Calais, comment ont-elles été sélectionnées ? Est-ce que ça a été facile pour vous de les obtenir ?
Alors celles qui sont dans la galerie Rodin sont des œuvres qui appartiennent soit au musée de Calais, soit qui ont été déposées par des institutions, pour la plupart parisienne, à l'occasion de dépôts. Donc en fait, ce sont des contrats de prêt, mais plutôt de longue durée, que certaines institutions font à d'autres institutions. Donc ici, dans la galerie Rodin, on a des œuvres qui appartiennent au musée, des œuvres qui ont été déposées par la ville de Paris, et des œuvres qui ont été déposées par le musée Rodin, pour la majeure partie d'entre elles.
Et au niveau du choix des œuvres, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique au musée de Calais ?
Jusqu'à ces dernières années, on présentait surtout des œuvres autour de Rodin, autour du monument bourgeois de Calais. Et en 2019, quand il a fallu renouveler le dépôt, l'idée a été de sélectionner un certain nombre d'œuvres qui ne faisaient pas partie de la série sur les bourgeois de Calais, mais plutôt autour de la Porte de l'Enfer, pour montrer la diversité du travail de Rodin. Rodin n'était pas uniquement l'auteur du monument bourgeois de Calais, mais avait aussi une carrière avant et après ce monument.
Est-ce que dans les musées, alors de France, voire de l'étranger, il y a, à part le musée Rodin de Paris, des musées qui ont justement des présentations de cette dimension ?
Alors je ne saurais pas vous répondre sur le nombre d'œuvres exactes, mais on est effectivement un des plus gros dépôts. Je ne voudrais pas dire le plus grand parce que ça demanderait vérification, mais on est un des plus grands dépôts d'œuvres de Rodin en province.
Est-ce que votre collaboration avec le musée Rodin de Paris vous entraînera peut-être à faire visiter ce musée au public de Calais ?
Forcément, quand on présente ce genre de galerie avec autant de dépôts, je pense qu'on va donner envie à nos visiteurs d'aller en savoir plus, de voir davantage d'œuvres. Et c'est l'idée. Et on fait énormément. Donc le musée Rodin est cité dans tout le parcours. Et on fait des renvois réguliers, notamment, je pense, à la Porte de l'Enfer, avec un QR code qui permet d'accéder directement au site du musée Rodin pour avoir des informations complémentaires. Mais on a vraiment un partenariat privilégié avec ce musée. On reçoit des conseils, du coup, se dépose. La reproduction aussi de beaucoup d'iconographies. Donc effectivement, on espère que ce partenariat se poursuive et que nos visiteurs aient envie d'en savoir plus et voir aller à Paris ou inversement.
Alors le cadre du musée Rodin est un peu comme ici, donne sur un magnifique jardin. Ici, vous avez aussi des espaces.
Oui, tout à fait. On a cette chance d'avoir un musée qui date des années 60, qui est un musée de la reconstruction avec des espaces, des grands volumes, des grandes hauteurs sous plafond, de grandes baies vitrées. Et tout ça, effectivement, la salle Rodin s'ouvre sur le parc Richelieu, où la sculpture des monuments, d'ailleurs, était présentée à l'origine, en 1895. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir de passer du temps dans cette salle face à la verdure du parc qui est juste en face.
Voilà, donc c'est pas très loin de la station de train, hein, en fait. Il y a la gare à 500 mètres.
On est à peu près à 10 minutes de la gare de Calaisville, donc à peu près un peu moins de 2 heures de Paris.